Chers auditeurs, bienvenue dans La Méridienne. Je vous espère toujours en bonne santé. Et comment ne pas rendre hommage en ouvrant cette méridienne à l'incroyable saxophoniste Manu Dibango, qui nous a quittés ce mardi 24 mars des suites du Covid-19. Il s'est éteint à l'âge de 86 ans et Manu Dibango est l'auteur du générique de La Méridienne. Écoutez également Ghetto Blaster à 18h, puisque Ghetto Blaster rendra également hommage à Manu Dibango. Et je vous propose d'écouter ce deuxième épisode du Printemps des Poètes Confinés. Aujourd'hui, vous entendrez dans cette deuxième épisode du Printemps des Poètes Confinés Audrey Léauté, Anaïs Andos, Guillaume Virentin, Daniel Begdad et Mathilde Marson, Noualia, Warda, Sylvaine Vielnot, Océane Alper, Frédéric Godard, Claire Calfon. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de m'envoyer poèmes, slams et chansons, et même vos propres créations, à melissa@radiocampustour.com pour un prochain épisode du Printemps des Poètes Confinés. Et si vous ne pouvez pas vous enregistrer, vous pouvez également m'envoyer le texte que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs. Place maintenant à la poésie.
René est unijambiste. La nuit, le jour, il traîne sa jambe de bois au-dessus de ma tête. Le balai infernal des pantoufles me rappelle la pluie battante sur les vitres de mon camion. René est unijambiste. Il l'a perdu lors d'un combat à main nue avec un requin. À l'époque, il était vendeur de diamants en Afrique du Sud. René était courageux et téméraire. René a traversé tant de vies. Sa peau dévoile une carte à deviner, à explorer, à gratter. Un des sillons cache une femme aux cheveux d'or, au sourire ravageur et à la folie délicate. Un autre, plus haut, démasque le monteur de chapiteaux qui domptait les lions et les tigres. Ses mains, burinées par le vent, affichent la vie d'un marin, pêcheur d'harengs et de baleines sur des côtes islandaises. Un dernier, au milieu du visage, décèle le feu sacré de son âme. Une flamme désormais éteinte qu'il a brûlée au fer rouge. Mais maintenant René est vieux. Et sa vie se rythme au cliquetis de la pendule. Il se lève pour aller de son fauteuil à la fenêtre et imagine la vie des passants. Seul. face à son café brûlant. Il traîne ses souvenirs comme il porte sa jambe de bois. Et parfois, j'aperçois lors de nos rencontres se dessiner dans un soupir l'esquisse d'un sourire, un souvenir peut-être amené par le vent, d'avoir fait flèche de tout bois et transpercé mon cœur.
Confinement, un poème de Claire Calfon. Unis en étant séparés, froissés en étant repassés, nous sommes blancs comme neige, et notre peau de printemps humidifiée sous la pâte mouille du ciel. La ville est vide, la vie est pleine. Le temps est plein, et nous, bocage. Les bretelles de l'horizon ont lâché, terre et ciel, étendue et bordure, tout se confond, tout se répand et vibre de l'absence de limite.
Saint-Vincent. Frédéric Godard, accompagné de Mélissa et Laura. Comme tous les soirs, sur la place Saint-Vincent, tout le monde s'ennuie. Il y a les gens qui viennent et ceux qui s'en vont, un chien qui se promène, quelques pigeons et les serveuses qui servent, qui encaissent, puis replacent les chaises en souhaitant que tout le monde se taise. Tous les gens sont assis à leur table et bavardent en attendant que le temps passe. Ils parlent certainement pour couvrir le bourdon insupportable de leur activité cérébrale. Ils couvrent par la même occasion le bruit de la fontaine, mais pas celui du ballon qui martèle la cathédrale. Un bruit puissant et inlassable dont l'écho ne laisse aucune chance au silence. Un bruit toujours présent, et qui pourtant ne cesse de surprendre tous ceux qui l'entendent. Évidemment, beaucoup de ces gens s'agacent, mais compatissent avec l'ennui de cet enfant, et ainsi font fi de ne rien entendre. Parfois, quelques regards s'évadent discrètement de leurs occupations pour le contempler, jouer, lui et son ballon. Pendant ce court instant, une lueur brille dans leurs yeux. Ce soir, sur la place Saint-Vincent, un enfant est heureux.
Ovide, l'art d'aimer. Extrait du livre 2. Ce n'est pas assez que mes vers aient amené à toi celle que tu aimes. Mon art te l'a fait prendre, mon art doit te la conserver. Il ne faut pas moins de talent pour garder les conquêtes que pour les faire. Si tu veux conserver ton amie et n'avoir jamais la surprise d'être abandonné par elle, il te faudra joindre les dons de l'esprit aux avantages du corps. La beauté est un bien fragile. Tout ce qui s'ajoute aux années la diminue, Elle se flétrit par sa durée même. Ni les violettes, ni les lys ne sont toujours en fleurs, et la rose une fois tombée, l'épine se dresse seule. Toi aussi, bel adolescent, tu connaîtras bientôt les cheveux blancs, tu connaîtras bientôt les rides qui sillonnent le corps. Seul l'esprit subsiste jusqu'au bûcher funèbre. Ne considère donc pas comme un soin futile de cultiver ton intelligence. L'amour est une espèce de service militaire. C'est même une petite guerre. Il faut tromper l'ennemi. La nuit, l'hiver, de longues routes, de cruelles épreuves, voilà ce qu'on endure dans ce camp du plaisir. Arrière, homme lâche ! Dois-je te conseiller d'envoyer des vers ? Hélas, la poésie n'est plus à l'honneur aujourd'hui. On fait l'éloge des poètes pour ne point paraître sots, mais on ne les chante guère. Ce sont des présents qu'on réclame, et pourvu qu'ils soient riches, le rustre lui-même plaît. Notre âge est vraiment l'âge de l'or, et sans lui, Homère reviendrait-il, accompagné des muses, on le mettrait à la porte. Homère. Il y a tout de même des femmes cultivées, mais plus nombreuses sont celles qui veulent le paraître. Alors, que tes vers soient bons ou mauvais, fais-les surtout valoir par le charme de ton débit et surtout, surtout, par l'éloge de leur charme à elles. Être en admiration perpétuelle, voilà le secret. Il y a des femmes dont l'amour languit, faute d'une rivale. Un feu se consume sous la cendre blanche, mais si l'on y jette du soufre, la flamme qui semblait éteinte se ranime. Ainsi, l'on pourra réveiller l'ardeur d'un cœur attiédi. Heureux, un nombre incalculable de fois, celui dont la maîtresse offensée s'arrache les cheveux et se déchire les joues. Puissé-je encore être celui-là ? Tu la laisseras gémir, pas trop longtemps. Un long retard permettrait à la colère de prendre des forces. Celles-ci ne doivent pas se retourner contre toi. À ses larmes, donne des baisers, qu'elle refusera. Alors, demande-lui de signer sur son lit un traité de paix. Elle s'adoucira. C'est là que, sans armes, se gagnent les plus grandes batailles. Donc, en avant ! Quelques règles essentielles, enfin. La première, sois discret. Sans être prude, recouvrons d'un voile ce qu'il est indécent de montrer. Le mystère n'en aura que plus de charme. Aujourd'hui, nous affichons nos exploits, faisons commerce et donnons spectacle en tout lieu. Un peu plus de pudeur pour l'auguste cérémonie. La pratique de ce culte n'en sera que moins flétrie par certains, mieux servie par les autres. Souviens-toi aussi de louer même les défauts de la femme aimée. On s'accorderait à trouver Andromaque d'une taille démesurée. Un seul homme la jugeait de taille moyenne, Hector. Tout est une question de mots. Exemple. Svelte sera celle à qui sa maigreur laisse à peine un souffle de vie. Agile, les petites, et bien prise, les énormes. Bref, apprends à déguiser le défaut sous la qualité qui en est la plus voisine. Ne t'informe jamais de l'âge, surtout s'il est certain. Apprends enfin que plus les femmes s'arrachent de cheveux gris, plus elles sont savantes en l'amoureux travail, plus elles possèdent l'expérience qui seule fait les artistes. Alors, par le raffinement de leurs soins, elles compensent du temps l'insinueux ouvrage et, suivant ta fantaisie, se prêteront pour l'amour à mille attitudes bien choisies et peu sages. Nul recueil de peinture, voluptueuse, n'a imaginé plus de poses diverses. Pour que le plaisir soit vrai, il faut que l'homme et la femme y prennent part également. Un dernier conseil, enfin, adolescent, mon frère, mon fils, mon ami. Te voici derrière la porte close. Un lit a reçu deux amants. Oublie tout ce que j'ai pu dire à présent. C'est toi qui commandes. Tu étais l'élève, tu deviens le maître. Penche-toi sans honte sur le corps bien-aimé. N'imite pas ces jeunes poulains trop fougueux qui forcent leur ardeur. Découvre l'endroit secret que l'on aime à sentir caresser et qu'alors ta main s'y promène sans crainte ni pudeur. Ne hâte pas le terme de la volupté. Tu verras les yeux de ton ami briller d'un éclat tremblant, puis viendront des plaintes, de doux gémissements. Alors souviens-toi, et ne va pas la laisser en arrière ou lui permettre de te devancer. Le but, atteignez-le en même temps. C'est là, le bout du chemin, le comble de la volupté, lorsque vaincus tous deux, femme et homme, vous demeurerez étendu et sans force. Je touche au terme de mon ouvrage. Accordez-moi une pensée, jeunesse reconnaissante, et sur ma chevelure parfumée posez une couronne de myrte. Homme, célébrez votre poète, décernez-moi des louanges, que mon nom soit chanté dans le monde entier. Je vous ai fourni des armes, qu'elles vous donnent la victoire. Toi, ne sois pas trop oublieux, et si, grâce à ce chant d'adieu, tu triomphes d'une amazone, inscris sur la dépouille « Ovide était mon maître ».
Aujourd'hui, je vous propose de lire des brèves de vétérinaires, dont un qui s'appelle Stéphane Giraudon, qui a écrit « Allô le veto, bref de tout poil » aux éditions Locus Solus. On verra des chats, des chiens et même des hamsters. Vous inquiétez pas, pas de boyaux, pas de sang, juste des humains un peu cons. Nous avons affiché dans la salle de consultation le fameux tableau des âges, qui permet à chacun d'associer un âge humain à son chien ou chat, ce qui permet également de faire remarquer qu'il est un peu normal que Mastoc, qui a 13 ans, puisse avoir un peu de mal à se lever le matin, puisque...
Voyons voir, Madame Cranou, votre Mastoc, ça lui fait tout de même 90 ans. Pas sûr qu'à 90 ans, vous galoperez aussi vaillamment que votre brave Mastoc. Pas vrai, Madame Cranou ?
Et hier, pendant que je rédigeais une ordonnance... C'est intéressant, votre tableau, là.
Oui.
Mais il y a un truc que je comprends pas.
Quoi donc ?
J'ai 56 ans.
Oui, et alors ?
Bah, combien ça me fait en âge chien ? Les gens sont formidables ! C'est une belle femme, assurément, que j'invite à entrer dans ma salle de consultation ce matin-là. Très élégante, habillée avec une classe et un raffinement inhabituel à notre bourg rural. Il me semble qu'elle est secrétaire médicale au chef-lieu du département. Son mari est un homme grand, fort, un peu rustre et toujours pressé. Un bosseur. C'est l'un des plus gros éleveurs de la région. Vaches laitières, porcs. Il fréquente assidûment la clinique pour se ravitailler en médicaments et demander conseil. Il nous sollicite parfois pour des visites, assez rarement, car c'est le genre d'homme à toujours croire qu'il peut se débrouiller seul. Bien qu'honnête et franc, c'est un négociateur sans pitié, qui étudie avec attention tous les prix de nos produits, n'hésitant pas à discuter sans relâche ses remises. Un éleveur de porc breton donc. Aujourd'hui, sa femme, Christine, est seule. Elle pose sur la table de consultation un jeune chat intimidé. Un joli chat. Bonjour Stéphane, je suis embêtée pour mon chat. T'as vu comme il boite et il mange rien. Sa patte est enflée, ça semble très douloureux. Effectivement, je ne peux que confirmer. Le thermomètre indique 40 degrés, la patte arrière est chaude et très sensible. En palpant délicatement, je découvre sous les poils deux petites infections cutanées. Un petit coup de tondeuse met en évidence les lésions. Ok, rien de grave.
Eh bah c'est pas grand chose ça, il s'est fait croquer par un congénère ton matou. Je vais lui faire une injection d'antibiotiques retard qui agira pendant 15 jours. Il devrait être rétabli très rapidement, t'inquiète donc pas.
Ah ok, je m'inquiétais pas trop, mais tu sais, c'est le chat de la maison, alors... Pendant que je procède à l'injection sous-cutanée, elle s'adresse à moi un peu gênée. Il y a un service que je voudrais te demander.
Oui ?
Pierre ne sait pas que je suis là, et j'aimerais autant qu'il l'ignore. J'avoue ne pas trop comprendre, je fais que m'occuper très honnêtement d'un petit chat malade, rien que ne pourrait me reprocher un mari, fût-il grand, fort et le plus gros éleveur de la région. Mais elle poursuit. Ah, tu connais Pierre, pour lui les chats c'est tout juste bon à chasser les souris dans l'élevage. Jamais il n'accepterait que je le fasse soigner chez le véto. Il me trouve ridicule et beaucoup trop sensible. Il a peut-être raison, mais... Enfin bref, tu mets pas cette consultation en compte, je te la règle tout de suite, et tu me parles pas de ma visite. Je reconnais que j'imagine assez mal son mari au coin du feu, le soir, caressant délicatement la fourrure soyeuse de son félin favori, ronronnant sur ses genoux. Chérie, il faudrait que t'emmènes mon bibi chez le véto demain, je le trouve pas très en forme. Non, franchement pas le genre. Je l'imagine plutôt rentrant le soir tard, fatigué, affamé, et maugréant. Fous-moi donc ce foutu chat dehors, c'est pas sa place à la maison.
Ah ok, je comprends. Bon, naturellement, Christine, ça sera notre secret.
J'appuie mon propos d'un clin d'œil complice. Elle me sourit en retour, un peu honteuse, mais amusée et manifestement soulagée. Son mari passe à la clinique le lendemain. M'apercevant, il m'interpelle. Ah tiens, Stéphane, je peux te causer 5 minutes seul ? Le sourire que j'affichais intérieurement s'est figé. Aïe. Qu'est-ce donc ? J'ai rien fait que... Je n'ai rien fait, moi, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est elle qui m'a demandé, j'étais pas trop d'accord, Oui, un peu lâché couard comme réaction. Je devrais être plus noble et courageux. Tant pis, je défendrai et protégerai la belle désespérée, qui compte sur mon honneur et ma probité. Chevaleresque jusqu'au bout, j'accepte le duel à l'aube, et défendrai jusqu'à l'ultime goutte de sang, ce si lourd secret qui me lie à elle pour l'éternité. Cyrano à la rescousse. Oh femme, adorable carogne, voici les cadets de Gascogne. Que le vieil époux se renfrogne, sonne et clairon. Chante ton coucou. Bien, calmons-nous, j'ai l'imagination fertile.
Tu veux me parler ? C'est pourquoi ? Vas-y, rentre.
J'avoue être un peu déstabilisée. Il s'est évidemment rendu compte que le chat était soigné et vient porter réclamation sur la facture. Ou pire encore ? Alors que je ferme la porte de consultation, il se retourne vers moi, ouvre son blouson et dépose sur la table, le chat, celui d'hier, avec sa petite patte toujours un peu gonflée et sa zone tondue. Je le regarde surpris, hausse les sourcils interrogateurs, il se lance presque gêné.
Alors voilà, c'est le chat de ma femme, et il boite dur. En plus regarde, il perd même ses poils maintenant. Bref, moi les chats, hein, tu te doutes bien, je soignerai ça vite fait. Mais bon là, comment dire. Je sais que ma femme y tient beaucoup, ça m'embête très bien qu'il lui arrive une bricole. Alors si tu peux faire quelque chose... J'explose de rire intérieurement. Il continue. Et puis aussi, je voudrais pas qu'elle soit au courant de ma démarche. Tu comprends, j'aurais vraiment l'air d'un con à m'occuper comme ça du petit chat, ok ?
Mais non mon gars, t'auras pas l'air d'un con, on est d'accord, je dirais rien. Ça sera un secret entre nous. Entre nous trois.
Et pas besoin de facture, je vais te régler ça tout de suite.
Je dois bien être le seul à avoir réussi à facturer deux fois la même consultation pour un petit chat à un éleveur de porc réputé comme un négociateur sans pitié. Je n'ai pu réprimer un immense sourire de satisfaction. Le chien m'est présenté par une vieille dame très digne et un peu dure d'oreille. Je crois comprendre que depuis deux jours, il vomit et ne mange pas grand-chose. À tout hasard, j'effectue une radio. Sait-on jamais, une occlusion, un corps étranger. Face au négascope, je remarque une forme métallique dans l'estomac du chien.
Tenez, je crois comprendre le problème. Votre chien a avalé quelque chose.
Comment ? Je hausse le ton, parlant fort pour me faire entendre.
Votre chien a avalé quelque chose.
Comment ? Des roses ?
Non, non, je disais...
Veuillez parler plus fort, j'ai perdu la pile de mon sonotone.
Ah oui, bah je l'ai retrouvée.
Elle est où ?
Bah là, dans l'estomac de votre chien.
Soizic, concentré de culture punk, grunge, gothique, s'approche de l'assistante vétérinaire à l'accueil et demande d'une voix forte. « Bonjour, je viens chercher des croquettes pour grenouilles. » Silence. Les clients s'arrêtent de converser. L'assistante la regarde médusée, éberluée, le sourcil haut et le regard interrogateur. « Des croquettes ?»«
Oui, des croquettes. »«
Pour grenouilles ?»« Bah oui, pour grenouilles, ma chienne. » C'est un hamster apeuré que j'observe sous le regard angoissé de sa jeune propriétaire accompagnée de sa mère. Alors que je tente d'ouvrir délicatement la bouche du rongeur, celui-ci n'hésite pas une seconde. Crac ! Rapide comme l'éclair, il enfonce cruellement ses incisifs affûtés dans mon doigt. La douleur est fulgurante. S'enfuit deux actions malheureuses de ma part. Tout d'abord, j'ai hurlé des mots peu convenables aux oreilles de la demoiselle. Ensuite, dans un réflexe humain, certes, mais peu professionnel, j'ai balancé vigoureusement la cause de ma douleur pour la détacher de mon index injustement torturé. Scène au ralenti. Vol du hamster dans un silence interrompu par le de l'animal contre la porte lorsqu'il s'écrase sur le carrelage. Je n'ose plus bouger, la mère me regarde, interrogative entre fou rire et stupeur. La fille se précipite vers son animal qui ne bouge plus, affalé sur le carrelage. Fort heureusement, il n'était qu'un peu secoué et s'est vite rétabli de sa cascade involontaire. La fille l'a vite replacée dans sa cage et s'est sauvée loin de cette clinique maudite et de ce vétérinaire diabolique. La famille au complet arrive en consultation avec leur chien. Ce dernier est quelque peu titubant et je dois lui faire une prise de sang. Les choses ne se passent pas comme le voudrait ma dextérité légendaire et je manifeste quelques gestes d'impatience. Et les enfants tous en cœur. « Allez, vas-y monsieur, du calme, ça va aller. » Bon, je garde mon calme, j'essaie. Le chien qui s'agite mériterait bien quelques remontrances. Au même titre que les enfants, mais je m'abstiens et me contiens avec peine. « Allez, monsieur, allez, sois gentil, vas-y, cool !» Au bout d'un moment, je craque.
« Bon, les enfants, le monsieur, il fait ce qu'il peut, ok ?»
Et toute la petite famille me regarde ahurie. « Mais monsieur, c'est le nom du chien. » « Ah, ouais, d'accord. Autant pour moi. » Cannelle, une grosse chatte noire, est prostrée sur la table de consultation. Je suis perplexe. Cannelle est le troisième chat cette semaine que je consulte pour les mêmes symptômes. Légère hyperthermie, anorexie, vomissement et surtout un bel ictère comme dans les livres. C'est quoi ça un ictère ? C'est pas trop grave j'espère ?
Un ictère, c'est une coloration jaune des muqueuses que vous pouvez observer là et là. Une jaunisse donc.
Ah ok, et c'est grave ?
Un peu oui, ça signe souvent une atteinte hépatique. Mais je ne sais pas exactement de quelle maladie est atteinte votre chatte. Il est possible que ça soit infectieux.
Je déroule en pensée le diagnostic différentiel des ictères chez le chat. Cause préhépatique avec des redoutables virus FIV et FELV, associés éventuellement à l'hématobartonellose ou des causes post-hépatiques avec la lidiose, avec le complexe cholangio-hépatique félin. Je vais vous faire croire que je connais tout ça par cœur, alors que mon bouquin de patho-féline est grand ouvert sur mon bureau. Diabolique, je poursuis.
J'y pense, vous habitez bien Guerzec ?
Oui, oui. C'est dingue ça, deux chats venant du même village quasiment des voisins, c'est pas un symptôme rare, mais en voir trois dans la même semaine et vivant au même endroit, ça me déconcerte. C'est tout de même bien étrange. De quelle épidémie mystérieuse ces chats sont-ils atteints ? J'avais simplement prescrit un traitement antibiotique aux deux autres chats dont l'état général était plutôt bon. Mais Canel est nettement plus fatigué et déshydraté. J'envisage de surcroît quelques analyses sanguines afin d'orienter mon diagnostic. Aussi, je propose de l'hospitaliser.
Il me semble préférable de garder Canel à la clinique. Nous allons la perfuser, lui administrer ses antibiotiques. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de son état et des résultats des analyses sanguines. Passez la voir quand vous le souhaitez.
Quelques jours passent et l'état général de Canel s'améliore sensiblement. Elle mange à nouveau, est plus dynamique et la couleur jaune de ses muqueuses s'atténue progressivement. Je suis évidemment très satisfait, mais je reste un peu frustré de ne pas comprendre l'origine de cette maladie mystérieuse. Les analyses ne révèlent aucune infection précise, si ce n'est une atteinte hépatique sérieuse. Trois chats vivant au même endroit, avec la même maladie, une cause toxique peut-être. Je cogite, je parcours la bibliographie, je téléphone au centre antipoison à Nantes. Je questionne les forums professionnels, je googlise, je KWVET, je VETBREG, mais rien. Finalement, Canel rentre chez elle 3 jours plus tard, en bonne voie de guérison, d'une maladie qui reste mystérieuse. Le lendemain, je revois en consultation un des deux autres chats atteint du même mal étrange. Ah bah docteur, Frimousse m'a fait très peur. Elle est partie 3 jours, impossible de mettre la main dessus. J'étais persuadée qu'elle était partie se cacher pour mourir. Naturellement, elle n'a pas pu avoir ses médicaments pendant tout ce temps-là. Pourtant, de toute évidence, Frimousse va mieux. Même si une chose intrigue son propriétaire. Il y a un truc bizarre qui est apparu sur sa patte. Regardez là, il n'y a plus de poils. Et c'est alors que la lumière fut. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Elle est si simple, l'explication. Frimousse a la patte tendue, exactement de la même façon dont nous avons procédé avant de mettre en place un cathéter pour une perfusion. Il n'y a pas de pandémie. Frimousse et Canel ne sont qu'un seul et même animal. De même que le troisième, évidemment. Cette petite chatte roublarde vit dans 3 maisons voisines et est soignée alternativement par chacun des propriétaires. Je regarde Frimousse, alias Canel, et je suis persuadée de la voir sourire et me faire un clin d'œil complice et malicieux. Je t'ai bien eu sur ce coup-là, pas vrai, Doc ? En ce lundi de Pentecôte, je perfuse tranquillement une gentille vache qui a l'intelligence de ne pas bouger. Le glouglou régulier de la perfusion accompagne mes pensées. Il fait beau, presque chaud, juste bien. L'éleveur interrompt mes belles pensées. Ça doit pas être facile hein, de travailler un jour férié, vous êtes combien au cabinet à bosser aujourd'hui ?
Bah, un seul.
Hein ? Mais c'est qui ? J'ai pas dû être assez clair dans ma réponse. En cet après-midi de septembre, il fait chaud et lourd. L'orage menace, je transpire sous ma blouse. Je suis moite et collant. La cliente qui entre me semble pas beaucoup plus à l'aise. Elle transpire à contrôler ses bosserons et son jeune fils. Tout ce petit monde s'agite en tous sens malgré les « ici, non, ça suffit !» Après quelques essais infructueux, la troupe se trouve enfin réunie dans la salle de consultation. Malgré les fenêtres grandes ouvertes, le manque d'air est palpable. Les chiens déploient toute leur langue et halètent au maximum, semblant réchauffer encore un peu plus l'atmosphère. Il faut savoir que les chiens ne peuvent en effet transpirer, et c'est par leur langue qu'ils tentent de réguler leur température interne. C'est une nouvelle cliente, elle est habillée légèrement pour mieux supporter la chaleur. Je ne peux que constater qu'elle est bien jolie, et même assez sexy. C'est pour les vaccins, le complet avec le rhume du chenil. Je souris et tente de me concentrer en détournant le regard de cette jeune femme transpirante. Un peu de sérieux, docteur Giraudon.
Vous voulez sans doute parler de la toux du chenil ? Remarquez, c'est presque pareil, on va pas chipoter.
Oui, voilà, la toux du chenil. C'est parce qu'on les laisse une semaine en pension.
Ok, pas de problème. C'est en effet une sage précaution. Allez, au premier sur la table.
Oups, ça va pas être facile, il fait tout de même 40 kilos. Prenant cette injonction comme un défi d'une dame à son chevalier servant, je m'empare du bosseron d'un mouvement ample et souple et le pose délicatement sur la table de consultation. Le fils ouvre grand les yeux admiratifs. Waouh, t'as vu maman comment il est trop fort le veto ? Je tente le sourire modeste et décontracté tout en maîtrisant au mieux mes poumons que l'effort a mis fort à contribution. Ils réclament avec insistance leur ration d'oxygène. Pour un peu, j'aimerais pouvoir halter comme un chien. Mais j'ai dans l'idée que l'image du docteur vétérinaire chevalier servant super fort en serait quelque peu ternie si je me mettais à respirer comme un bœuf. D'autant que je sens une énorme goutte de sueur dégouliner délicatement sur mon front que je devine rouge. Je ne dois pas faire bonne figure. Bref, vaccin donc. Me détournant pour prendre mon stéthoscope, j'essuie discrètement la goutte pour constater avec effroi que tout mon visage est trempé. C'est une chance, le chien est gentil et très calme sur la table. Il se laisse ausculter et papouiller sans difficulté. J'en profite donc pour retrouver une contenance et calmer discrètement mon essoufflement provoqué par l'effort brutal. Je vais investir dans une table électrique. Hop, une pédale et ça monte et ça descend sans effort. Le rêve. Le petit gars est très attentif à mes gestes, très impressionné. Beaucoup plus que sa mère qui est plongée dans son smartphone, qui vibre et bip à tout va.
Je l'observe discrètement pendant que je suis censée me concentrer sur les battements cardiaques de son chien. J'aimerais bien tout de même faire bonne impression à cette jeune et nouvelle cliente. En principe, un veto, c'est un peu un héros, non ? Oui, manifestement, je ne l'intéresse pas du tout. Son fils, en revanche, est toujours captivé. Il me pose des questions, rassure son chien, observe avec intérêt et admiration. Je discute avec lui, lui explique ce que je vais faire. J'en ai, à n'en point douter, beaucoup plus de succès avec le fils qu'avec la mère. Il va falloir que je vaccine ce chien dans les règles de l'art, sans qu'il bouge, pour ne pas le décevoir, ce petit gars. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Du moins, c'est ce que je pensais. L'injection sous-cutanée des valences carrées, hépatite, leptospirose, parovirose se déroule sans aucun accroc. Facile. Le chien tranquille sur la table ne bronche pas. Waouh, t'as vu maman, il a même pas eu mal. Il est trop fort le veto, non ?
Ouais.
Elle pourrait au moins écouter son fils et s'intéresser à ce que je fais, non ? Néanmoins, sentant que je gagne des points, je surjoue mon rôle de veto dynamique et très à l'aise. Faut dire que pour un vaccin, c'est assez facile, le risque est faible. Je devrais pouvoir arriver à arracher un petit sourire à cette femme rebelle. Il me reste le vaccin contre la toux du chenil.
Alors, pour le vaccin contre le rhume ?
Aucune réaction, le bide.
Enfin, contre la toux du chenil, je vais lui faire en intranasal, dans le nez donc.
Et me voilà avec ma seringue sur la pointe des pieds à tenter d'instiller le produit dans une des narines du chien, qui n'est plus du tout d'accord. Impossible même de lui approcher la seringue, il recule violemment et tombe de la table.
Bon bah on va le laisser par terre, hein, comme on dit, il tombera pas plus bas. Hein.
Rebide, j'ai un peu chaud à nouveau. Essuyage discret d'une goutte de sueur persévérante. Me voilà à califourchon sur la bête. Doucement, je tente une nouvelle approche de la narine droite, tout en cachant les yeux du chien pour masquer mon attaque. Mais l'animal m'a senti venir. Il se dégage vigoureusement et se cavre à la manière d'un étang fougueux, me propulsant littéralement à travers la salle de consultation. Me voilà, gisant sur le carrelage, couvert de poils et de bave, et cherchant mes lunettes elle-même victime du rodéo. Silence. Puis elle explose de rire. Un truc incontrôlable. Elle ne cherche pas à se cacher. Elle rit franchement. Et pour un peu, j'ai l'impression qu'elle va me prendre en photo pour partager un bon moment avec ses amis. Me voir étaler tout penaud au pied de son chien qui m'observe goguenard en remuant discrètement la queue doit être en effet un spectacle du plus haut comique. Mais voilà qui n'est guère à mon goût. Je comprends que la situation m'échappe définitivement, je suis ridicule. Me relevant, je tente de me donner une contenance. Je récupère ma seringue sous mon bureau et j'entreprends de réussir mon instillation nasale maudite. La jeune femme m'incite à l'abandon.
Bon, écoutez, si vous y arrivez pas, c'est pas bien grave, hein. Je reviendrai avec mon mari. Il arrivera à vous le tenir.
L'humiliation est totale. Mais le spectacle pour son fils est grandiose. Il en reste bouche bée, ne loupant rien de ce moment formidable. Avec patience, je réussis vaguement à lui placer les 0,5 ml dans les sinus, mais ce fut une haute lutte et ma victoire est très modeste. Un soulagement. Fort heureusement, le deuxième chien reste calme, redorant quelque peu mon blason bien mal en point. J'ai maintenant hâte que cette consultation se termine au plus vite. Plus rien ne risque de m'arriver, mais je pense avoir été assez ridicule comme ça. Je raccompagne la troupe jusqu'à l'accueil et salue tout ce petit monde. Il va me falloir un bon café pour enchaîner et surtout oublier ce moment navrant pour mon ego. Hélas ! Dans ma précipitation à rejoindre la salle de consultation, je glisse malencontreusement sur une flaque d'urine préalablement déposée par l'un des chiens. Je me vautre lamentablement sur le carrelage, malgré ma tentative désespérée pour me rétablir en accrochant l'étagère, soutenant les shampoings. Tout vint le dingue dans un immense fracas, déclenchant les aboiements des chiens comme autant d'applaudissements pour ce final grand guignolesque. La mère, le fils et les ASV sont sidérés et constatant que seul mon amour-propre est blessé, ne peuvent s'empêcher de rire de la situation. Hilarité générale à mes frais. Allez-y, c'est ma tournée. Le garçon se retourne alors vers sa mère. Il est drôlement rigolo le veto, hein, maman. Elle sourit, me regarde. Oh oui, on peut dire ça, rigolo.
Manine désinvolte sur le lisse papier, glisse et virevolte. Manine désinvolte sur le lisse papier. Glissez, virevolte. Puis se met à pleurer. Ce sont les larmes noires qui effacent les jeunes. Alors je vais les voir en avaler. choisir le bon geste et bien sûr une ligne. Ma plume sur le papier rayé pour polir le vers d'un poème qui pourra réfléchir les couleurs de lumière sur la chaleur d'un mot.
J'ai rêvé que je faisais du slam, que j'étais entourée d'inconnus à qui je racontais mes états d'âme. J'ai rêvé qu'ils m'écoutaient et qu'ils trouvaient ça beau, qu'ils oubliaient, clignaient des yeux en écoutant mes mots. J'ai rêvé tout haut des mots que je dis jamais. Jamais sûre de moi, je faisais que les écrire et ça allait. Mais putain, ça fait du bien de le dire tout haut. Et oui, c'est pas parce que j'ai une petite voix que je dis pas de gros mots. J'ai rêvé que c'était pas vraiment pour de vrai, qu'on avait d'autres bonnes raisons de pleurer, que la vie avait ce qu'il faut au niveau surprise zéro. On aurait pu imaginer n'importe quoi. Mais d'un coup, la vie s'est mise à rimer de travers. C'était comme ça, prum, ça touchait terre. Comme un coup de poing, on m'a dit désormais ce sera comme ça. Moi j'ai rien dit, j'avais pas vraiment le choix. Alors, j'ai accepté la défaite qu'on m'avait attribuée. Je suis repartie de là, c'était reculer pour mieux sauter. Sauter dans la vie et me jeter dans ses bras. Ses bras à elle et ses bras à lui. Quand j'ai amené la pluie, il m'a offert des fleurs. Quand la peur m'a saisi, il m'a ouvert son cœur. Et ce gros nuage qui vers nous marchait au hasard, on lui a gentiment dit d'aller se faire voir. Il a pas trop aimé, il s'est mis à pleuvoir. Il est devenu encore plus sombre que noir. Il nous a balancé la tempête, la foudre et le tonnerre. On a pris nos jambes à nos coups et c'est là que ça dégénère. Aujourd'hui, je commence à comprendre le cycle de la vie. Je commence à comprendre qu'après le beau temps vient la pluie. Et plutôt que de fuir, je reste plantée là à espérer. L'eau coule sur mes joues mais j'attends. Il va arriver. L'espoir. Le soleil et les beaux jours sont juste là. Derrière cette montagne, si je grimpe encore un peu, je suis sûre qu'on la verra. La vie. La récompense, la beauté de ce qu'on s'était même pas permis d'imaginer. Devant vous, j'ai envie de me promettre que jamais j'abandonnerai. Cette nuit, j'ai rêvé que je faisais du slam. Que j'étais entourée d'inconnus à qui je racontais mes états d'âme. J'ai rêvé que je leur déballais mon cœur et qu'ils trouvaient ça beau. Qu'ils avaient oublié de cligner des yeux en écoutant mes mots.
Le film des questions. Filmer un paysage en Alabama où un jeune tueur en masse, le mardi 10 mars 2009, assassine 10 personnes au hasard avant de mettre fin à ses jours. Croire au monde, croire à la réalité de ses ruptures internes, voir comment l'événement se perpétue. Balbutie reste en suspens dans la faille majeure qu'il crée. Ceci n'est pas un film sur ceci. Chaque question posée est une bifurcation, une déviation, une prolifération devant la route qui se jette droite devant nous.
Di cucchiaio in grado di fare apparire sullo schermo il pasta.
Comment isoler les choses à filmer? Comment séparer les choses à filmer? Le cadrage est-il cette opération-là? L'opération qui isole sur un ensemble infini d'actions subies tel ou tel ensemble fini d'excitation. Comment la mettre en place? L'opération de la perception serait-elle un cadrage, une mise en tableau? Comment constituer le cadrage du monde? Comment constituer le cadrage du monde par le vivant des choses? Comment quitter le centre d'indétermination des choses? L'indétermination des choses reliée par l'événement, comment? L'indétermination des arbres perdus et pendus dans les forêts noires d'Alabama, comment? L'indétermination, comment et où cela? Et la caméra dans tout ça? Que peut-elle? Que ne peut-elle pas? La caméra est-elle une simple ouverture sur un spectacle donné? N'implique-t-elle pas un accent, une intonation, une inflexion? N'implique-t-elle pas un cri? L'idée de l'œil, n'est-ce pas que l'œil est toujours là, que les choses viennent s'inscrire mécaniquement et adviennent que pourra? Le regard implique-t-il l'envie de regard? Le regard comme une force qui se bande, qui se débande? Comment filmer pour que le rapport de la caméra à ce qui est capté ne soit pas le rapport de la chose inerte et facile à l'œil objectif? Comment déjouer l'idée que l'écran serait comme une fenêtre ouverte sur le monde? Comment déjouer l'idée selon laquelle le spectacle du monde viendrait s'y inscrire en quelque sorte de lui-même? Le peuple des people d'Alabama n'est-il pas un regard? On voit les bois, les forêts, les mails d'Alabama et on entend qu'ils subsistent à toutes les épreuves auxquelles, dans les millénaires, l'idée est exposée, c'est ça? Les bois, ces forêts, ces mails d'Alabama, ils se mettent à fonctionner d'une certaine manière, c'est ça? Ne sont-ils pas ceux qui, dans les millénaires, en viendront à résister, à rester en reste, à rester en reste ici et là, dans le vent?
Quest'anno è stato molto difficile per me. Quest'anno ho cambiato paese, sono venuta qui. È cambiata la scuola, gli amici e soprattutto il paese.
Cette année a été très difficile pour moi. Cette année j'ai quitté mon pays, je suis venue ici.
Io mi sento chiusa in me stessa, non lo sono mai stata.
Je me suis enfermée à moi-même, je ne l'ai jamais été.
Ma quest'anno è successo. In Italia avevo tutto ciò che mi manca. Vorrei tanto ritornare, ma mi sembra impossibile, proprio impossibile.
Cette année, c'est arrivé. En Italie, j'avais tout ce qui me manque. Je voudrais tant rentrer chez moi, mais cela me semble impossible. tout simplement impossible.
Li voglio il mio paese, la mia stanza, la mia casa, il mio quartiere, dove sono nata, cresciuta, dove ho imparato ad andare in bici, dove sono caduta, dove mi sono rialzata, dove ero felice, sorridente, solare, aperta.
Je veux retourner dans mon quartier, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai appris à marcher, à pédaler, où je suis tombé, où je me suis relevé, où j'étais très heureuse, souriante, solaire et ouverte.
Vuol dire tanto, ma tanto per me.
Vuol dire tanto, ma tanto per me. Je parle italien.
Émile Morival, Poussier captif. Connaissez-vous Baptiste Flouquette, le compagnon del taille du fond, chez le neveu du grand Cafougnette, si bien connu dans nos régions, comme Saint-Monoc chez un grand dial, et un peu vantard, bon comme Elpin, cheveux un brosse moustache martial, l'arche des épaules, cœur sur la main, saint compagnon chez le Gus Lafrite, desquindant des vieux Valenciennos, vrai Gaulois fier et intrépide, tout dit prêt à donner des copses. Plus petit et plus épais, Flouquette, chez le champion des buveux d'ennemis. Il n'aime pas trop qu'un le ravette, il a tout dit peur qu'un se fout des lits. Zef Balicourse, joyeux compère, finit le trio avec honneur. De Strauss, chez le plus beau mousquetaire, il se pomponne et il se met de l'odeur. Habile à vous, un dire une bonne sur un tontou dit ben choisi, Chély, quitto le maire des bleus bonnes et qui rimpe lâche d'Oulier Musi. Pendant 9 mois, aux 54, ils ont fait la guerre qu'un cono à une guerre du ce qu'il ne fallait pas se battre et du ce qu'il tend drôlement passo. Mais au moment des grandes bagarres, ils se sont conduits fort vaillamment. Ils se sont battus sans crier gare, ils se sont fait le devoir simplement. Près d'eux, des copains sans fortune, sont quéus comme des vrais héros, et sans comprainte, à une nuit sans lune, ils sont partis soudain, tout droit. Ils ont connu Dunkerque et Lille, et les compas de rue meurtriers, puis sous le joug d'un sort imbécile, ils sont été faits prisonniers. Sans nouvelles, l'enmost souffrance, ils sont infinte et rassurés, et ils s'atteindent plein d'espérance, du jour, du ce qu'ils seront délivrés. Un simple ami, allons les vire, s'accommoder malgré le sabut, un accoutra à leur éclat rire, ça vaut mieux que les éclats obus.
Je suis la vieille Europe, Amazone désarmée, fracturée, bombardée de devoirs et de lois. Il est la jeune Afrique, l'homme d'ailleurs qui enfile le vêtement d'ici, à jamais mal ajusté. Je suis la carcasse vide d'une splendeur à terre, le portrait tiré à 4 épingles, duquel toute ride a été comblée d'acide. Visage repassé, mon sourire est figé. Inanimé, je ne fais plus illusion qu'à moi-même. Je suis cette vieille Europe décadente qui s'ignore, dormant à poings fermés sur les droits de mon homme, ancienne princesse, crispée sur ses caprices, qui lit dans les lignes de la main de l'Afrique son nouveau destin, celui auquel je l'ai contraint ici aussi sur mon sol, sous mon toit sûr de moi. Où sont mes frontières? Il est la jeune Afrique, déferlante vague de retour sur des investissements. Il s'égare sur tous les chemins sans issue de mon pays. Où est son visa? Au jeu du labyrinthe, il sera le plus fort car sa mort est derrière lui, peur vaincue, tandis que la mienne est droit devant, peur bleue. Vieille Europe, jeune Afrique, qui croche pied de l'un et mange poussière de l'autre. Noire sueur, blanche conquête, rouge colère, à cran, en creux, fait croire à la jouissance finale, phallus dressé, dignité foulée, l'heure d'un partage noir sur blanc sans cesse retardé. Nous sommes le fil tendu aux quatre vents d'un désir réciproque, le fantasme d'une terre commune qui berce le corps de son futur métissé. Vieille Europe, jeune Afrique, au final, ce qu'il grandira sur ma terre, ce sera toi, mon fils d'ailleurs, mon frère, mon homme, ce qu'il y a en moi. Toi, ma fille d'ailleurs, ma sœur, ma mère, de nos miettes, nous ferons la plus belle des histoires.
Fin de ce deuxième épisode du Printemps des Poètes Confinés que vous retrouverez en podcast sur notre site radiocampustour.com. Je vous donne rendez-vous prochainement à la même heure pour de nouveaux poèmes. Je vous invite à nouveau à m'en envoyer par mail à melissa@radiocampustour.com. Portez-vous bien, chantez, cuisinez, aimez-vous, mais surtout, restez chez vous. Thank you.